Le paddock RMC. Arnaud Valadon.
Salut à tous, bienvenidos a todos. Et ben oui, on se met à l'accent espagnol pour cette présentation du Grand Prix de Madrid. Le paddock RMC, votre rendez-vous tous les jeudis avant les week-ends de Grand Prix et tous les lundis suivant ce week-end. Le Grand Prix automobile de Madrid, c'est comme ça son nom. On l'appelle pas encore Grand Prix d'Espagne puisque il y a eu une édition à Montmeló pour la dernière fois en Catalogne. C'est cette nouveauté au calendrier et ce Grand Prix, ce Madring débarque ce week-end. Un tout nouveau circuit que nous allons vous présenter. Long de 5,4 km avec 22 virages. On va aussi parler de la situation chez Ferrari. La fin de saison peut s'annoncer explosive avec Lewis Hamilton qui ne cache plus sa frustration. Fred Vasseur attaqué par Lewis et par la presse italienne. Où est John Elkann ? On pourrait jouer là-dessus. La Scuderia, une nouvelle fois, fait parler d'elle autrement que par ses résultats. Et puis Max Verstappen qui a indiqué avoir discuté sérieusement avec Mercedes et McLaren. Est-ce que le quadruple champion du monde a vraiment fait le bon choix en restant chez Red Bull? On en débat avec nos deux pilotes. Alors, puisqu'on est en Espagne, Ilyes Barry, bonjour.
Salut.
Tu vas devoir deviner à quel pilote je t'ai associé. Louis Gerbier qui est à côté, que je salue aussi.
Salut.
Tu peux jouer,
monde.
Tu peux le battre. Alors, j'ai piloté une Formule 1, mais jamais en Grand Prix. Mais je suis probablement le pilote le plus talentueux hors paddock F1 dans le monde, puisque je suis quintuple champion d'IndyCar, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, Alex Palou, Louis Gerbier. C'est bien Alex Palou?
Ouais.
Je pensais qu'il était plus jeune, presque 20, pas loin de 27 ans, hein, 28 ans hein, pour Alex Palou. On attend de le voir un jour en F1, quel talent
peut-être,
quand même.
Ouais,
mais...
peut-être.
Il avait été, s'est fait des déchets chez McLaren notamment. Yes. Louis Gerbier, ton pilote, 105 départs. Meilleur classement, 11e en 2006, mais c'était une demi-saison parce que chez McLaren, j'avais remplacé Juan Pablo Montoya. J'ai d'ailleurs signé un podium en Hongrie en finissant 2e derrière Jenson Button, surtout connu pour être pilote d'essai, mêlé au scandale d'espionnage de McLaren qui a espionné Ferrari, même s'il n'a pas été sanctionné pour cela. Et si j'étais français, on m'appellerait Pierre Delarose.
Ah, Pedro De La Rosa, ok.
Voilà.
Merci. Ouais, je l'aurais pas eu sinon.
Oui, c'était pas évident.
Ouais, mais... non, il était. Ouais, mais maintenant que tu le dis, comme dirait l'autre.
Voilà, pilote d'essai. Bon, oui, il y avait Alonso, j'aurais pu vous prendre aussi. Mais bon, on découvre un peu voilà, des pilotes qu'on n'a pas l'habitude de parler. Allez, c'est parti pour le paddock. Présentation de ce Grand Prix de Madrid. Avec les essais, deux séances d'essais libres à suivre vendredi, les qualifications à 16h, même si là, on peut regarder à partir de 13h15 les essais 1 demain, vendredi 16h45 essais 2. Pourquoi je vous donne les horaires? Parce qu'évidemment, c'est un circuit que personne ne connaît. Là, je pense que la séance d'essais libres va être passionnante quand on n'a pas l'habitude forcément de voir ou qu'on s'ennuie un petit peu parce que les équipes testent différents setups. Les qualifications à 16h samedi à suivre évidemment sur RMC et le Grand Prix à 15h dimanche. Alors, on va faire quelque chose, messieurs, avant de s'exprimer sur le circuit. Je sais pas si on l'a déjà fait en radio, je vais vous commenter le circuit. On va y aller. Je vous mets, on va voir la petite bande son qui va suivre le circuit et je vais vous commenter le circuit. Comme ça, on va avoir eh bien, un peu cette sensation. Essayer de le découvrir en radio, c'est pas évident, effectivement, mais on va vous donner tout ça. Allez, c'est parti. Avec ce circuit, on attaque cette ligne droite, 589 mètres. Il y a 200 mètres entre la pole et la première chicane avec un gros freinage. On va passer de 320 à 120. Cette chicane gauche-droite qui sera déjà un premier gros freinage. Et ensuite, on réaccélère dans ce premier secteur pour la longue ligne droite, 837 mètres, légère courbe à droite. Et on devrait atteindre la vitesse maximale. On annonce 340 km/h. Mais avec le super clipping, ça va être compliqué. Et tout de suite, on retrouve une chicane un peu comme la première. Un gauche-droite, on va rétrograder en troisième. On va passer sous le tunnel. Et là, on va monter pour ce virage en aveugle, complètement à droite, avec une pente de 8%, ce fameux virage 7. Et ensuite, on va enchaîner des courbes assez rapides, 5e jusqu'en 6e. Le but, c'est de ne pas arriver à fond dans le fameux El Monumental, ce banking, ce virage incliné à 24%, 550 mètres, 45 000 spectateurs. On annonce le clou, mais il va falloir garder une trajectoire intérieure pour ce virage numéro 13 qui est un virage à 90 degrés à gauche. Là aussi, on va enchaîner ensuite des courbes rapides. La San Lazadas des Valdebebas. Et attention, fin du deuxième secteur, virage à 90 degrés à droite. On va rétrograder en troisième, le 17 qui cause pas mal de soucis. On repasse sous le tunnel, on est dans le secteur 3 désormais. Voilà des longues courbes et on va arriver sur cet enchaînement et ce virage numéro 20 à 117 degrés, complètement à gauche. La forêt rétrogradée en deuxième à 80 à l'heure. Attention, ça se rétrécit. Et ensuite, on finit avec deux virages à droite à 90 qui rappellent un petit peu Yas Marina, notamment. Aussi, quelques enchaînements à Bakou, même si je crois à Bakou, c'est à gauche. Et on retrouve la ligne droite avec l'overtake que l'on pourra activer sur cette ligne droite de 500 mètres. La petite précision sur la pit lane, 25 secondes estimées pour un arrêt au puits. Et attention, elle coupe la première chicane de manière très serrée, c'est-à-dire que les pilotes vont accélérer puis freiner pour rejoindre le circuit dans cette longue ligne droite. Voilà, vous avez compris ?
J'y étais.
On y était.
J'espère. Mm-hmm. Bon, qu'est-ce qui vous inspire ce circuit, Louis ?
Je pense que la première fois qu'on l'a vu, on était tous un peu dubitatifs. Il y a quand même des
enjeux. Côté patchwork.
Ouais, voilà, c'est ça. On a l'impression que, exactement, que c'est, on a collé des types de circuits les uns aux autres pour faire quelque chose. Et à la fin, ça paraît un peu étrange. Des chicanes, des lignes droites, mais pas tout à fait quand même. Il y a une courbe. Donc, bon. Mais plus on s'approche, plus finalement, j'ai envie de regarder ce week-end. Tu vois. J'ai envie de découvrir un peu ce que ça peut donner. C'est toujours marrant, un nouveau circuit, si on peut dire ça, quoi, parce que on sait que les pilotes, là, ils sont sur le simu depuis quelques temps, mais ça va être quand même leur première fois sur circuit, donc on va avoir des choses, on va avoir des surprises. Mais globalement, si je devais dire est-ce qu'il fallait le faire, je l'aurais pas fait, tu vois. J'aurais pas ramené Madrid dans le calendrier. Maintenant qu'on y est, eh ben, allons-y, regardons et espérons qu'on passe un bon week-end, quoi.
Bon, déjà, les installations semblent prêtes, Iliès, parce que c'est vrai qu'on a vu des vidéos, on se dit, mais jamais ce sera prêt. Bon, c'est prêt. Pour revenir sur ce circuit, on voit un petit peu le fil rouge de tout ce tracé, c'est les murs, plus proche des murs, lécher les murs, quoi, parce que c'est pratiquement que ça dans beaucoup de corners.
Ouais, bah en fait, c'est un peu l'ADA des nouveaux circuits. On l'a eu à Jeddah, on l'a eu à Bakou un peu plus anciennement. C'est les nouveaux circuits, c'est comme ça. C'est dans une ville avec des longues courbes pour essayer d'éprouver les pilotes. Maintenant qu'il est là, bon, on va forcément regarder. C'est vrai que niveau installation, ça faisait peur parce que à 3 mois avant le Grand Prix, c'était plein de poussière. Il n'y avait même pas encore les tribunes, donc ça faisait très peur. Mais c'est clair qu'il y a une petite hype quand même parce que c'est de la découverte. Avec ces nouvelles voitures, ces pilotes qui ne connaissent pas du tout le circuit. On avait vu Max Verstappen dans une vidéo qui se prenait je ne sais combien de murs. Pierre Gasly aussi qui disait que dans le simu, il a pris tous les murs possibles et prenables de ce circuit. Forcément, il y a des petites attentes quand même.
Tiens, on va écouter Max Verstappen, c'était sur son Twitch. Il répondait à une question sur ce tracé du Madring.
Yeah, it's going to be, I think, very difficult. Right. Like, it's not an easy track, actually. Like, if you do like a few laps in a row, it's always very hard to, well, cross the line and say, okay, I nailed the lap. Like, it's very hard. And I think also it has a tendency of maybe creating some big shunts in some places.
Right.
It reminds me a little bit of Jeddah in a way, you know, with fast corners and the walls being very, very close.
Oui, ça va être, je pense, très difficile. C'est vraiment pas un circuit facile. Si tu enchaînes plusieurs tours d'affilée, c'est toujours dur de franchir la ligne en te disant « Ok, j'ai rentré le bon tour ». C'est très dur et je pense aussi que ça a tendance à pouvoir provoquer de gros cartons à certains endroits. Ça me rappelle un peu de Jeddah d'une certaine manière, tu vois, avec ses virages rapides et des murs très très proches. C'est vrai qu'on a vu la F3, Louis, s'essayer sur circuit. On a vu beaucoup de drapeaux rouges. Alors je pensais ce virage 20, là, le tout dernier, le gauche, qui se rétrécit, où il va falloir braquer énormément. Finalement, c'était plus au virage 7, ce virage en pente de 8% en aveugle où tu tournes à droite, et le 17 qui est aussi ce virage à 90 degrés à droite, fin de secteur 2. Il va y avoir de la casse, hein, on n'imagine pas, ne serait-ce que essai libre, qualif, où on va être à fond, voire même course, j'imagine pas une seule fois ne pas voir le drapeau rouge. Hein.
Ah bah ça c'est clair, et puis en plus... Comment dire, là il y a 22 voitures, je trouve qu'il est assez étroit, il y a des virages où tout le monde va être en découverte, des virages compliqués, on a une sensation en regardant des tours que c'est pas naturel l'enchaînement, on a l'impression que c'est vraiment le mot que tu as dit tout à l'heure, le patchwork, quoi. C'est qu'on a collé des choses et donc... Moi, je suis comme toi, s'il n'y a pas de drapeau rouge, je ne viens plus au paddock. Jamais, tu vois. Je parie mais des dizaines de drapeaux rouges. Quoi. Ça va être un peu le bazar. Faut pas que ça soit le chaos non plus, parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait des choses graves. Mais ça va être très compliqué. Et le point aussi sur le retour en piste, où il va falloir freiner, accélérer. Oui. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça, quand même, quoi. Enfin,
il n'y a qu'à Spa qu'on avait vu ça.
Ouais, on a.
De mémoire.
Ouais, à Abu Dhabi, tu sors, tu passes en dessous.
Oui, t'as le tunnel.
Mais bon, une fois que tu repars, quoi. T'as pas. Bon, bref. Donc, on est quand même attentif sur. Je pense sur les premières séances, on va voir des choses. On va voir du Tech Pro qui vole et des pneus dans les murs.
Après, c'est freiné, ça arrive sur quelques circuits. J'ai l'exemple de Spielberg aussi, où tu tournes un peu à droite, mais là, c'est très serré quand même. Hein. On a vu la sortie des stands. Ilyes, est-ce que tu es d'accord? Va y avoir à chaque session un drapeau rouge?
Ouais, même plusieurs drapeaux rouges, je pense, parce qu'il a un peu ce côté roller coaster qui peut faire très très peur, et avec des virages à l'aveugle. On sait aussi que ces voitures-là peuvent à certains moments être à l'arrêt quasiment.
C'est ça.
Ou avec des gros différentiels de vitesse. Il va falloir qu'on soit bien organisé, que la radio des pilotes fonctionne très bien, parce que ça peut faire très très peur en termes de gros chocs. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de poussière, j'imagine, sur le circuit. Donc aussi, attention, les premiers essais libres, les gommes vont être plutôt sales, et donc ça peut créer de gros impacts.
Avec en plus un asphalte, on avance un grip évidemment très 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 bas. Hein.
Bah, c'est logique, c'est pas plus mal que les F3 y soient passés avant, ça va un petit peu laver, mais bon, on n'est pas sur les mêmes monoplaces. Y a un autre truc bizarre aussi, c'est le paddock.
Oui, totalement fermé.
Enfin, si vous avez déjà fait un parc des expositions, je ne sais où, bah c'est là-dedans, quoi. C'est-à-dire, c'est hall 3, t'as 3 ou 4 écuries. Après, t'as un autre 3 ou 4 écuries. Ou t'as un autre hall avec d'autres. Très bizarre. Tu sens que ça a pas été fait pour les bonnes raisons, en fait, au fond.
Mais t'as vu le pitwall aussi. T'as Williams qui est littéralement dans le premier virage, qui
est vraiment
qui est dans le premier virage. Qu'est-ce qu'ils font là-dessus, je ne sais pas.
Non, mais voilà, c'est plein de choses comme ça qui te dit bon, pourquoi ce projet. Et puis alors, la phrase qui m'a choqué, c'est peut-être un peu fort, mais c'est la FIA qui demande aux fans d'être indulgents. Mais c'est quoi ça? Il y a des gens, ils payent 400 balles le ticket, vous êtes indulgents vous? Vous avez, enfin, à quel moment on doit être indulgent? Soit vous avez fait un projet qui tient la route, soit il tient pas la route. Mais il n'y a pas à être indulgent. Enfin, on est en F1.
Oui,
l'indulgence et la F1, ça ne va pas ensemble.
C'est pas la course de cartes locale, régionale. Quoi.
Ça, vraiment, j'ai trouvé la communication de la FIA désastreuse là-dessus.
Tiens, différentes déclarations. Pierre Gasly, je crois que sur le simulateur, j'ai touché tous les murs. C'est comme à Monaco, si tu commets une petite erreur, les conséquences peuvent être importantes. Et évidemment, le meilleur d'entre nous, Fernando Alonso, on lui demande qu'est-ce qu'il pense du Madring, et il a répondu, désolé de rire en avance, je crois que les pilotes Ferrari pourraient mieux répondre que moi. Parce que les pilotes Ferrari ont eu droit à s'essayer sur ce circuit pour de la promotion.
Voilà.
Bon, toujours excellent, Fernando Alonso.
Toujours le petit mot pour rappeler il est, c'est le pauvre petit Alonso qui a jamais de chance, quoi, depuis un moment, quand même.
Oui, ou le vieux sage, presque, oui. De dire, voilà, demander aux pilotes Ferrari l'avantage, puisqu'ils ont un petit peu étreiné ce circuit. Est-ce qu'il y a des parties qui vous plaisent ou pas? Alors, on parle de ce fameux banking El Monumental, 550 mètres, cette pente à 24%. Bon, que pas non plus à Indianapolis, c'est plus long. Hein. Déjà, c'est assez court finalement. C'est 45 000 spectateurs. Est-ce que c'est un virage qui, franchement, vous fait envie, ou vous dites il est un peu surcoté? Parce que de toute façon, Ilyes ou Louis, il n'y a qu'une seule trajectoire bonne, elle est intérieure.
Bah, c'est ça, c'est l'intérêt de faire un. En fait, si on fait du phénoménal pour faire du phénoménal, on veut juste faire du spectaculaire. Parce que, en fait, tu fais un banking, mais il n'y a qu'une seule trajectoire. Mm. Ça sert à quoi d'avoir un banking? Bah, rien c'est du ça. Tout. Surtout quand la trajectoire est intérieure.
En plus, c'est-à-dire qu'il a même pas, vraiment d'intérêt. On se rappelle de Zandvoort, le premier petit banking là, vraiment l'épingle à cheveux banking là où ils vont le chercher en haut, où certains tentent une deuxième trajectoire, mais on voit que finalement elle est quand même moins rapide. Mais au moins, ils vont utiliser le banking et c'est ça qui leur permet de sortir plus rapidement. Là, apparemment, de ce qu'on voit, la ligne. C'est à l'intérieur. Bah, faites une route plate, les gars. C'est quand même simple. Hein, donc c'est, ouais, je trouve ça dommage. Après, c'est souvent ça, le banking. C'est-à-dire que tu as un côté... ça finit toujours comme ça, quoi. Il y a une trage et puis bon, finalement, ça change pas grand chose à part d'avoir surélevé la route et de faire des belles photos pour les écuries, quoi, pour l'Instagram.
Surtout pour un rayon très court, en fait, c'est ça le problème. C'est d'ailleurs que le banking, il y aurait, quand on voit tous les speedways aux États-Unis, on sait que tu peux adopter plusieurs trajectoires parce que le virage est long, que voilà. Aussi t'as l'effet d'aspiration. Là, c'est tellement court, 500 mètres, puis en fait, on fait quasiment un tour sur soi-même, hein, puisque ça nous permet de revenir. C'est une espèce d'épingle géante. Hein.
Ouais, c'est une espèce de spoon relevé. Je pense que c'est pas là qu'on va s'éclater ce week-end, c'est clairement.
Tu penses que c'est où on va s'éclater?
Moi je pense qu'on va s'éclater, on s'entend, mais je pense que c'est les pilotes qui vont s'éclater, mais littéralement en fait, ils vont prendre beaucoup de murs et que c'est ça qui va être un peu les highlights du week-end, comme je l'ai dit, en espérant qu'il n'y ait que de la casse matérielle, mais j'ai pas vu un virage, je crois que c'est la deuxième chicane me paraît hyper étrange aussi, le virage à l'aveugle dont tu as parlé, lui, je ne sais pas si on va s'éclater, mais il va être très intéressant parce que je pense qu'il va se passer des choses là, que ça soit, comme l'a dit Iliès en début, une voiture qui va se retrouver à vouloir s'écarter à ce moment-là, un ingénieur qui a trois choses à faire en même temps et qui oublie de dire qu'il y a quelqu'un derrière. Mais ça va plus être des choses comme ça que vraiment, en voyant le tour, je n'ai pas vu un virage où je me suis dit « Waouh, ah ouais, là, ça va être trop bien sur ce virage. » Non, malheureusement.
Moi, je trouve le premier secteur est plutôt honnête, c'est la suite qui est un peu surcotée parce que t'as ces deux belles chicanes qui s'enchaînent une après la ligne droite des stands. Et là, le virage 5-6 où tu redescends pareil à 120, tu vas perdre 200 km/h. C'est ce premier secteur qui est finalement peut-être plus intéressant que le reste, qui paraît sur le papier quand on voit le dessin, Iliès, on se dit le virage en banking, c'est long court. Bon, au final, on voit très bien sur toutes les simulations que il n'y a qu'une seule trajectoire et que tous les virages rapides, c'est compliqué de faire quelque chose, quoi. C'est-à-dire, t'es déjà à 250, t'es à la meilleure trajectoire possible, t'es sur le vibreur, quoi.
Ouais, c'est beaucoup plus du fantasme sur des virages que vraiment un virage en particulier. Je pense que c'est plus l'enchaînement qui pourra peut-être nous faire plaisir. Max l'a dit, c'est dur d'enchaîner les tours. Donc je pense que voir un tour complet à fond, ça peut être pas mal, parce que ça sera quand même de la bravoure. Mais les virages en individuel ne sont pas vraiment hypants.
Là, on donne avantage à quelle voiture? La plus polyvalente, la Mercedes? Il y a évidemment une grosse partie moteur. Et puis, on sait qu'elle est aussi, elle sait s'adapter sur différents tracés.
C'est ça, et puis même quand même globalement sur cette saison, on a vu McLaren pointer le bout de son nez un moment, on a vu Red Bull être pas trop loin, Ferrari pas trop loin, mais finalement en fait les plus réguliers et ceux qui sont un ton au-dessus, et on l'a vu le week-end dernier quand même avec une voiture qui part 19 qui finit 1. Voilà, je pense que Mercedes part avec un petit temps d'avance. Juste pour finir sur le banking, est-ce que justement cette réglementation avec les différentes stratégies de batterie, est-ce que parfois on ne verra pas un dépassement, qu'on appelle plutôt un changement de position, puisqu'ils n'auront pas la même stratégie, et du coup ça fera une belle image, mais ce n'est pas un vrai dépassement, quoi.
Et attention, il y a les pneumatiques, c'est là où tu vas aussi plus tirer sur tes pneumatiques. Il y a une grosse gestion de ce point de vue-là.
Il y a des chances que ça soit sale là-haut.
Il fera chaud, on annonce une température de piste à 52-53 degrés. Je pense que l'aspect, une nouvelle fois, gestion pneumatique. Bon, Pirelli, je crois qu'on nous met C2, C3, C4, je crois, sur les gommes, il me semble, de mémoire. Donc bon, il y a toujours un peu cet aspect-là de gestion pneumatique. Allez, puisque tu n'as pas cité... sur les voitures...
Non, je suis d'accord, Mercedes. Ouais. Et peut-être un McLaren Verstappen qui se battent pour le podium. Mais je pense que la hiérarchie sera à peu près la même que la semaine dernière.
C'est bien, personne n'a cité Ferrari, on en parle justement.
Steering wheel, collapse the steering wheel, yeah. Give me steering wheel. Hey, steering wheel, somebody tell him to give it to me. Come on, move.
Voilà, jingle Ferrari, Kimi Raikkonen en 2017 à Bakou.
Je crois qu'il y a un mot qui est bipé. Hein.
Oui, il n'a pas son volant, ni ses gants, et il s'énerve. Moi, ça me fait toujours rire à chaque fois.
Incroyable, incroyable. Avec le petit qui a signé chez Red Bull, chez les jeunes, j'ai vu ça. Ouais.
Est-ce qu'on va voir enfin un fils de champion réussir? Parce que souvent, ce n'est pas une réussite pour l'instant.
Après, si on considère Jos Verstappen comme un champion... Bah, du coup, ça marche avec Max. Mais bon, c'était pas un champion du monde ou quoi. Mais Ferrari, je pense que là, le jingle est fort à propos parce qu'en ce moment, c'est le bazar dans la Scuderia. Le dernier Grand Prix. Compliqué, hein, que ça soit sur la piste et entre les pilotes. Et
alors
maintenant, tu nous apprends plein de choses sur
la
direction.
Je vous fais un petit récap, même si sur les fils d'eux, Keke Rosberg, Nico Rosberg, deux champions du monde.
Bien sûr.
On y pense, mais bon, Nelson Piquet, tout ça, bon, Verstappen. Là, j'en ai pas d'autres qui me viennent de mémoire, mais je crois que le meilleur, c'est Keke Rosberg et Nico Rosberg, deux champions du monde. Justement, donc chez Ferrari, est-ce qu'on assiste à une fin de saison explosive? L'avenir de Vasseur, la sortie de Lewis Hamilton, qui ne manque pas de susciter des remous chez Ferrari. Autant après Zandvoort, on avait plutôt calmé le jeu, autant là, ça ne semble pas être le cas. Il reprochait le manque de consignes après deux derniers Grands Prix où on a vu deux incidents notables qui sont à déplorer entre Leclerc et Hamilton en course à Zandvoort, des consignes pas claires et une touchette au départ à Monza. Il faut dire qu'une mini étincelle suffit à enflammer l'écurie de Maranello. L'avenir de Fred Vasseur, d'ailleurs, c'est pas la première fois questionné par la presse italienne. Bon, Fred Vasseur qui a déclaré « Monza est derrière nous, nous sommes pleinement concentrés sur Madrid ». Voilà les déclarations du patron. Ilyès, est-ce que là, de tout ce que l'on voit, est-ce que la fin de saison chez Ferrari s'annonce explosive?
Ouais, je pense que ça va être vraiment chaotique. Parce que moi, je pensais qu'à Monza, on allait avoir un appel au calme et des Ferrari unis pour aller chercher la victoire. Pour moi, c'était vraiment Monza qui pouvait un peu calmer les choses et appeler à une unition. Ben, en fait, rien du tout. C'est encore pire. Limite, c'est encore pire après Monza. Et je ne vois pas comment ça peut aller mieux, en fait. Parce que tu as un Hamilton qui veut clairement prendre l'ascendant sur Charles Leclerc, qui le prend en plus. Un Leclerc qui est en difficulté en termes de performance, mais aussi mentalement. Et je ne vois pas vraiment la dynamique s'inverser. Donc, en plus, avec un Fred Vasseur qui est discuté, je ne vois pas comment ça peut aller mieux d'ici la fin de saison.
Ouais, mais surtout en plus, Hamilton, on le connaît, c'est un grand champion, mais t'es pas un grand champion si t'es pas un peu méchant. Et là, il a pris une petite ascendance. On sent qu'il va pas, il va pas les lâcher en fait. Il va les pourrir à la radio. Il va jusqu'à en gros qu'on annonce entre guillemets ou qu'on fasse comprendre que ça y est, il est passé numéro 1. Et t'as Charles, le petit prince de Ferrari, ça fait maintenant des années qu'il est là, et il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès, il y a presque, pas une régression, on ne va pas aller jusque-là, mais voilà, on sent que le week-end dernier, c'est affreux ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il enchaîne en trois tours, mais tout ce que... Enfin, il serait jeune pilote Red Bull, il aurait pu dégager rien que sur ce Grand Prix, tu vois. Donc, c'est vraiment très mauvais. J'ai vu sur les réseaux que quelqu'un a compilé tous ses crashs dans sa carrière. Et c'est vrai que quand c'est rassemblé comme ça sur une vidéo, tu te dis, mais c'est trop. C'est trop. Souvent dans des moments vraiment où fallait pas. Donc, Charles, il a un virage à prendre dans sa carrière. J'ai même envie de dire que ce serait presque le moment peut-être de réfléchir à un autre baquet pour se régénérer. Parce que, comme l'a dit Ilyès, c'est un peu le panier de crabe en ce moment, la Ferrari. Et puis, quand t'as un Hamilton de l'autre côté du garage, ça va être très compliqué d'inverser les choses. En revanche, moi, je serais pas critique sur Fred Vasseur. Je pense que de toute façon, la Scuderia... Enfin, ça fait partie d'elle-même. C'est le bordel. Donc, lui, il essaye bon an, mal an. Est-ce qu'il doit plus taper du poing sur la table et peut-être avoir une communication avec...
Il n'est pas soutenu.
Mais voilà, c'est ça. Mais après, exactement, c'est qu'il faut aussi que ça vienne d'en haut. Quoi,
et bah oui, John.
Et bah ouais, John.
John Elkann, John,
il vend des Ferrari électriques. Alors.
Oui, ça, c'est un autre débat. Mais il n'est pas soutenu, Ilyès, mais... Pour revenir sur ce que disait Louis, là, c'est la première fois qu'on voit autant Charles Leclerc exposé. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? Toi, tu fais partie de quel camp? Est-ce que tu commences sérieusement à douter de Charles Leclerc? On l'a longtemps dit que c'était le pilote idéal. Il a dominé tout le monde, même si avec Carlos Sainz, il y avait une belle bataille. Il était quand même un petit peu devant. Il a dominé un Vettel qui était sur les rotules. Là, il se retrouve avec un Lewis Hamilton où l'année dernière, allait plutôt avantage Leclerc. Là, cette année, il n'y a pas photo.
Non, c'est clair. Et franchement, avec Charles, ça me fait de la peine parce que j'aime beaucoup le pilote.
Bien sûr.
Mais j'ai perdu espoir. Parce qu'au début, on pouvait lui trouver des excuses, les stratégies Ferrari, la voiture qui n'est pas bonne. Mais un problème, sa carrière, c'est un cycle sans fin. C'est-à-dire qu'il fait toujours ses erreurs. Ensuite, il y a des bonnes performances.
C'est le jour de la marmotte avec Bill Murray.
Ouais,
on se dit, il a appris. Et au final, il retourne dans ses travers. Là, il a eu un mauvais début de saison. Il y a eu Silverstone. On s'est dit, ça y est, il a compris. Il va réussir à s'imposer. Et au final, encore après, bah, c'est cata. Ou en tout cas, c'est très compliqué. Et je me dis que pour vraiment couper ça, bah, au bout d'un moment, comme l'a dit Louis, il faut aller ailleurs. Ferrari, ça ne réussit pas. Il n'y arrive pas. Il est en train de se faire manger. Hamilton, c'est un requin. Il a senti l'odeur du sang.
Exactement.
Maintenant, il ne va plus lâcher. C'est fini. Donc, soit il y a enfin ce déclic mental côté Charles Leclerc, il y a enfin ce déclic qu'on attend depuis des années, mais qui n'arrive jamais. Soit j'ai l'impression qu'il va passer au deuxième rang et ça va risquer d'être très compliqué pour lui.
Et comment vous interprétez cette prise de parole, ces velléités de Lewis Hamilton? Tu parles de l'odeur du sang, mais dans quel sens? Est-ce que c'est le septuple champion du monde qui parle et qui sait que ben non, moi je suis pas venu là pour changer les pneus, faire quelques tours. Mmh. Non, je suis là pour gagner avec Ferrari. Est-ce que c'est il veut se faire Charles Leclerc, il veut être le numéro un? Comment on doit l'interpréter?
Bah, y a un peu de tout ça, mais je pense que c'est surtout la première raison. Il est septuple champion du monde, Ferrari. Et puis la venue de Lewis Hamilton, lui aussi, l'année dernière, ça a été compliqué. Il y a énormément de pression parce qu'on connaît tous les enjeux. On sait que derrière, il va être le représentant un peu l'égérie, tout ça. Toutes ces choses-là, Lewis, il n'est pas venu pour faire de la figuration. Et l'an dernier, c'est un peu ce qu'il a fait. Donc là, il est encore plus revanchard. Et en plus, ça fonctionne. Là, il est devant son coéquipier. Donc maintenant, il veut que les choses soient dites, soient claires. Je ne pense pas qu'il en ait après Charles Leclerc personnellement. Je pense que de toute façon, Lewis Hamilton, comme à peu près tous les pilotes de F1, ils ont vite fait dans le nez leur coéquipier. Mais par nature, parce qu'en fait, il faut l'avoir un peu dans le nez. Tu ne vas pas commencer à lui donner tes réglages et à dire « Ah tiens, passe plutôt comme ça dans le 6 ». Donc, je ne pense pas que ça soit quelque chose vraiment dirigé vers Charles Leclerc. Mais de toute façon, ouais, Lewis, là, il a pris un ascendant sur la piste. Psychologique, ça va te perdre. À tous les niveaux, au palmarès, ces choses-là. Et puis, tu vois, nous, on commence à le dire avec Ilyes, alors que moi, en tout cas, j'ai toujours été fan de Charles Leclerc. J'ai toujours eu beaucoup d'espoir en lui. Donc, je me dis, si nous, qui le défendons depuis tant d'années, commençons à émettre des réserves, les critiques, elles doivent aussi fuser un peu. Il doit sentir toute cette pression. C'est tout sauf le bon état d'esprit pour aller chercher des bonnes performances. Donc là, c'est un petit cercle vicieux dans lequel il est. On a vu d'autres pilotes être dans des périodes très compliquées comme ça et réussir à s'en sortir et à revenir sur quelque chose de positif. Le premier en date, Hamilton lui-même. L'année dernière, c'était quand même assez mauvais.
Et l'année d'avant.
Donc, voilà, tout peut arriver, mais là, vraiment, il va falloir prendre des décisions, changer quelque chose. Je ne sais pas si ça doit aller sur une autre écurie, s'il doit, moi, j'en sais rien, changer quelqu'un dans son équipe, changer sa manière de travailler, se mettre un peu en retrait sur cette fin de saison pour mieux exploser sur la suivante. J'ai pas la solution, sinon je serais engagé à Ferrari, je gagnerais des millions, mais... il va falloir changer quelque chose pour Charles parce que là, c'est vrai que ça va pas, quoi.
Mais c'est un peu une stratégie, Ilyes, ça passe ou ça casse, parce que d'un autre côté, Hamilton peut dire, je mets l'impression, si on change pas, moi je m'en vais. Alors il y a un contrat qui court jusqu'en 2027. Imagine un changement de driver, Piastri Hamilton par exemple. Hein. Je dis n'importe quoi, hein. Mais on sent que on arrive à un point quand même de rupture. Hamilton dit, soit on change. Soit je vais peut-être finir par partir. Et est-ce que, clairement, Ferrari peut aller dans le sens, Ilyes, de Lewis Hamilton quand on a le fils chéri? Et je ne dis pas ça de manière négative, mais Charles Leclerc, c'est le fils chéri de la Scuderia, des ingénieurs, de l'équipe, de tout le monde.
Hamilton le sent que Leclerc est le fils chéri et c'est pour ça qu'il l'appuie, je pense. En fait, il sent que de l'autre côté du garage, c'est fébrile. Et qui a peut-être un petit ascendant à prendre pour l'avenir. Il sent que l'année prochaine, ça peut jouer le championnat et qu'il doit se placer maintenant en tant que numéro 1 parce que s'ils sont au coude à coude, Ferrari ne réussira pas à prendre les devants et dire « Bon, Hamilton premier et Leclerc deuxième ». C'est pour ça qu'il appuie autant sur cette fin de saison au final. En fait, c'est parce qu'il n'a rien contre Leclerc. Je pense qu'ils l'ont dit, les deux s'entendent très très bien. Mais il y a peut-être un tournant chez Ferrari à prendre pour les 2-3 prochaines années. Et Hamilton sent que c'est maintenant qu'il faut le prendre.
Surtout, on le disait lundi, il était à égalité de points avant Monza avec Russell. Là, il a 10 points de retard. Il peut clairement être vice-champion du monde, en fait, Lewis Hamilton, quand bien on sûr. Regarde. Il est là.
Là. C'est sûr que lui, là, sur la saison, il a pas tout à gagner parce qu'il n'a pas de championnat du monde à gagner, mais il a encore des choses à gagner pendant que l'avenir s'obscurcit un peu pour Charles. En revanche, pour terminer le sujet sur une note positive pour Charles, c'est que il y a un moment, à 40 ans, que tu sois le meilleur de l'histoire ou pas, tu peux pas être l'avenir d'une écurie. Et donc Charles, il peut aussi se dire, bon, on va se remettre les idées en place et on va repartir parce que justement, j'ai quand même toujours cette place, l'enfant chéri, je connais par cœur l'écurie, je l'ai dans la peau et je veux gagner avec. Et dans le pire des cas, Hamilton, je dirais, dans 2 saisons, je le vois plus être là. Mais là, le moment qu'il vit en ce moment, il est très compliqué. Et il va falloir en sortir vite parce que le requin Hamilton, lui, il va lui enfoncer la tête.
Sauf qu'il y est en juin, il a prolongé de plusieurs années, Charles Leclerc.
Oui, c'est pour
et
ça.
Évidemment, John Elkann a dit oui.
Ah oui. Bah,
surtout que dans une saison qui est catastrophique pour Charles, avec je ne sais combien de DNF, il est qu'à, entre guillemets, 50 points derrière Hamilton, qui n'a connu aucun DNF, si je ne me trompe pas.
Oui.
Donc au final, oui,
il a deux DNF.
La saison...
Monaco et Italie.
Ouais, donc la saison, et bah après, parce que tu as aussi la qualif à Barcelone.
Oui,
en fait, la
oui,
saison,
15 et pas dans les points. Ouais.
La saison, en termes d'image pour Charles Leclerc, est catastrophique, mais comptablement, il est encore plus ou moins dans le jeu. Donc forcément, mentalement, c'est compliqué en ce moment, mais rien n'est fini. Il reste pas mal de Grands Prix quand même pour inverser la tendance.
Sachant que juste avant le summer break, il dominait Hamilton, hein, puisqu'il gagne à Silverstone. Il fait 2e à Spa et 4e en Hongrie, ce qui était à chaque fois mieux que Lewis Hamilton. Vous voyez comment la résolution de cette situation, si on peut l'avoir?
Moi, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose en interne. Ça va être la piste. Ça va être la piste, c'est-à-dire que... Comme l'a dit Ilyès, il peut aussi faire son petit cycle. Donc là, il a fait une grosse erreur. Ça ne m'étonnerait pas de le voir très bon ce week-end, très bon au Grand Prix suivant. Maintenant, vraiment, lui, maintenant, il y a 24 Grands Prix par an. Il faut qu'il soit solide sur au moins, je ne sais pas, 22, 23. Quoi. C'est ça. Je pense que c'est peut-être ce cap-là qui doit passer. Parce que c'est un pilote de génie. Ça, personne ne peut en douter. Donc maintenant, il faut le montrer... à peu près tous les dimanches, voire tous les dimanches. Quoi.
Surtout qu'il a réussi, il a gagné à Monza, il a gagné à Monaco.
Et oui.
Oui, il te manque un titre de champion du monde, mais tu as déjà accompli des choses. Alors évidemment,
La fin de saison 2024, ou du summer break jusqu'à la fin de saison 2024, c'est lui clairement le meilleur pilote. Oui. Sur la piste, c'est lui le meilleur pilote. Donc il a pu nous le montrer quand même sur des bribes qu'il a quand même dans les pattes, 10-15 Grands Prix d'affilée où il peut vraiment être au top. Le problème, c'est que sur toute sa carrière, il n'a pas encore montré vraiment.
Allez, on va parler d'un pilote qui ne va pas signer chez Ferrari puisqu'il est resté fidèle à sa famille, à Red Bull. C'est Max Verstappen. Et le quadruple champion du monde a admis avoir parlé à Mercedes en 2025, à McLaren en 2026. Des discussions sérieuses, mais il reconnaît que rester avec Red Bull, c'est le choix du cœur. Alors l'avenir nous le dira si c'est le bon choix, mais quand on voit les dynamiques, les départs d'ingénieurs chez Red Bull, les performances des monoplaces, imaginons Louis, Max dans cette W17. Oui, il serait en route vers un 5e titre de champion du monde. Enfin, je vois pas autrement. Parce que là, il n'y a pas un rendez-vous manqué quand même. La fidélité, c'est bien. Le carnet de chèque aussi, parce qu'on parle de plus de 100 millions de dollars sur la saison. Mais est-ce que là, Max... C'est trop tôt pour le dire, mais il y avait clairement un tournant à donner à sa carrière.
Oui, potentiellement. Après, de toute façon, chez Mercedes ou McLaren, il ne l'aurait pas payé avec des Smarties. Donc la condition financière, ce n'est pas forcément l'enjeu. Lui, c'est vraiment sur les performances de la voiture. Moi, j'aime bien côté un peu rétro, tu vois, l'homme d'un seul club, les choses comme ça. Donc, félicitations, Max, pour ce choix du cœur. Maintenant, c'est vrai que concrètement, si froidement tu te mets au moment où il négociait, tu pouvais te dire, ouais, Mercedes, c'est peut-être pas bête du tout d'y aller maintenant. Il aurait été accueilli en plus. On savait qu'ils ont fait en sorte vraiment d'aller le chercher. Donc, il aurait pu tout avoir, mais il y a aussi s'adapter à tout quand tu changes d'écurie. On a vu que Hamilton, ça n'a pas été si simple. Donc, c'est aussi un choix compliqué. On sait aussi que Max, depuis qu'il a tout gagné comme ça, il l'a dit, il a un peu fini le jeu, quoi. Donc, je pense aussi que là, il est bien dans ses pantoufles et qu'il n'avait pas envie de s'embêter, entre guillemets. On ne sait pas combien de temps il va rester encore. Et puis aussi, il a peut-être confiance en le projet Red Bull, parce que Red Bull, ils ne sont pas non plus à la rue, hein, ils ne sont pas loin. On sait que le moteur est là. Ils ont toujours su être compétitifs. Parfois, ils se sont retrouvés un peu plus loin, mais avec son talent, de toute façon, il peut avoir la deuxième voiture, il peut encore être champion du monde. Donc, moi, j'aime bien. Moi, je valide ce choix parce que voilà, il y a ce côté justement, choix du cœur, l'homme d'une écurie. Enfin, d'une écurie, il a fait quelques grands prix à Toro Rosso au début, mais c'est la petite sœur.
C'est la même famille.
Je considère que c'est la même famille, exactement. Donc, moi, j'aime bien et je lui dis, ouais, c'était peut-être pas le plus évident. Mais voilà, ça ne m'étonne pas en fait, il y a un petit côté, le panache de Max Verstappen, et finalement il est toujours présent, et finalement, rester là, bah, c'était peut-être là qu'était le panache, puisque aller chez ceux qui, où on sentait bien que ça allait être les leaders, c'était peut-être trop simple pour lui, tu vois.
Ouais, même si McLaren lui offrait, j'imagine, de belles perspectives en endurance, sur des choses qu'il a envie de découvrir. Oui, Ilias, quand on connaît la personnalité de Max Verstappen, on n'est pas surprise, c'est pas quelqu'un qui aime la facilité.
Oui, non, c'est clair, surtout que bon, Henri, il connaît la famille Red Bull, il a déjà tout fait en Formule 1, il a tout gagné, donc au final, maintenant il a un enfant, avoir sa petite zone de confort, ses 100 pépettes par an, c'est très bien, je pense. Mais c'est vrai que personnellement, on aurait, pour la découverte, on aurait adoré le voir chez Mercedes, la petite bataille avec Antonelli.
Plus Mercedes que McLaren ?
Alors, plus Mercedes que McLaren pour la bataille avec Antonelli, mais McLaren, voir Verstappen foutre le feu au Papaya Rules, ça aurait été pas mal aussi.
Et ça aurait été pas mal, et surtout, c'est Piastri qui aurait sauté, non ?
Alors, oui. Ben justement, moi, derrière, j'avais une deuxième lecture. Parlons de McLaren, puisque ben, qui on aurait évincé ? On peut penser à Piastri, sauf que le contrat de Lando Norris a été prolongé cet été, jusqu'en 2030. Donc, est-ce que, paradoxalement, on n'aurait pas gardé Piastri, mis Verstappen, parce que évidemment, quand on discute, ça veut dire qu'il n'y a que deux baquets, donc ça veut dire qu'il y en a un qu'on aurait fait sauter.
Moi, je vois mal quand même McLaren balancer le fils prodige qui a gagné le championnat l'année dernière, qui s'impose comme le patron de l'écurie. Bien évidemment que si on lit les contrats et qu'on voit Norris à prolonger juste après Verstappen, on se dit peut-être que ça aurait été lui. Je pense qu'ils auraient trouvé un truc pour
Piastri.
Et il n'y a pas eu des discussions Norris-Red Bull aussi il y a un an ou deux ?
Il y a eu des rumeurs dans le paddock.
Il y a eu des rumeurs, ouais, c'est ça. Donc peut-être aussi que Norris, lui, il s'était dit...
C'est surtout Piastri qui avait... On avait beaucoup parlé de Piastri, d'échanges, de baquets.
Norris, il s'était peut-être dit, moi, le travail est fini, McLaren, j'ai eu mon titre. Maintenant, si je me retrouve à faire un swap et me retrouver aussi toujours dans une autre écurie très compétitive, ça aurait pu être intéressant pour lui. Mais moi, oui, s'il avait dû aller à McLaren, je pense que Oscar aurait été éjecté.
Après, bon. Et Oscar aurait rebondi chez Alpine.
Mais bien sûr, ah, oui. Il va y finir, je vous le dis, l'histoire est trop tordue.
Et on ressort le fameux tweet du mois d'août, que bah, je crois qu'il l'a encore mentionné cette année, parce que plein de gens lui souhaitent joyeux anniversaire pour ce tweet. Bon, l'autre confirmation, c'est que bah, George Russell n'était pas non plus la priorité pour Toto Wolff, hein.
Non, ah, bah, ça c'est plus
secret de polichinelle.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que on l'a bien compris. La piste en plus maintenant, a fini de l'achever, si je puis dire, parce que là clairement, si tu veux, t'es à plus de 50 points derrière Antonelli. Malheureusement, Georges, c'est pas l'avenir de Mercedes aujourd'hui, clairement.
Quel est pour vous dans le baromètre de ceux qui ne seront jamais champions du monde des pilotes entre George Russell et Charles Leclerc, lequel a plus de probabilité de ne pas l'être?
Les années à venir nous disent Charles quand même, parce que lui il a déjà pas la voiture, ouais. Donc c'est compliqué.
Mais c'est vrai que c'est similaire, quoi, parce que c'est quand même deux
Après,
dans leur
George
génération
n'a jamais
c'était
été
le top niveau
comme, comme Charles Leclerc chez Mercedes.
Non, mais quand même,
quand
il est chez Williams et qu'on ne sait pas si qu'on garde Bottas un an de plus, il y a un moment où justement il doit, on se demande si ce n'est pas le moment de le passer de la Williams et il est un peu frustré. Il passe 4 ans chez Williams, je pense qu'il en passe pas loin de 2 de trop pour moi. Bien que vous connaissez mon amour pour Valtteri Bottas, mais je pense qu'à un moment, Russell aurait fait aussi du bien à. J'allais dire la Scuderia, il aurait fait du bien à Mercedes et à Hamilton à ce moment-là. Il aurait amené beaucoup de fraîcheur et du talent, il en avait. Parce que quand il était monté justement une fois dans cette Mercedes, dans un baquet qui était à peine ajusté, il était trop petit, enfin bref, il avait fait des choses merveilleuses. Et là, clairement,
il avait fait foirer un arrêt.
Ouais, clairement, on sent qu'il a pas l'œil pétillant, quoi. On sent qu'il est abattu parce qu'il a compris. Il a compris que c'était sûrement passé. Mais d'un autre côté, comme tu l'as dit, il est encore dans le meilleur baquet possible pour avoir un titre, finalement. Il doit simplement, entre guillemets, battre Antonelli. Sauf qu'il arrive.
Le simplement devient de plus en plus compliqué.
Surtout que si on compare les deux, Leclerc, quand il avait la voiture en 2022 pour se battre pour un championnat, entre guillemets, il a écrasé Carlos Sainz. Quand Russell a eu la voiture, il n'a pas écrasé Antonelli. Même si ce n'est pas forcément le même talent quand même.
Non. 66 points d'écart, je vous rappelle, Antonelli en tête du championnat du monde des pilotes, 267 points, Russell 201, Hamilton 191, Norris 171, Charles Leclerc 155, Verstappen 127 et Oscar Piastri 116 en 8e position. Isaac Hadjar qui ne marquera pas encore de points, bon, on se le disait, vaut mieux être prudent, c'est effectivement, s'il n'est pas là à Bakou, qui est dans 2 semaines, on pourra vraiment flipper.
C'est ça, et puis il y a peut-être même, quand on entend les pilotes dire « j'ai pris tous les murs dans le simulateur », c'est peut-être pas le circuit où remettre un poignet qui n'est pas tout à fait consolidé.
Oui, c'est clair, vu qu'il risque d'y avoir des grosses boîtes, vaut mieux se rétablir.
Oui. Ça c'est plus prudent, par contre, si
mais oui, voilà,
on reste
ça,
toujours le secret, à Bakou, il n'y a toujours pas d'Isaac Hadjar. C'est flou, c'est qu'il y a un loup. Il y a un fameux dicton politique. Merci Louis Gerbier, Ilyes Barry, je vous rappelle, à suivre donc ce Grand Prix de Madrid avec les essais libres. En plus, on a F2, F3, F1 ce week-end. 13h30 pour les essais libres 1 en Formule 1. Deuxième séance d'essais libres à 17h vendredi. Qualification à suivre sur RMC samedi 16h avec Jean-Luc Roy. Ça va pas finir à 17h, probablement. Il va y avoir des interruptions, des drapeaux rouges. Et puis la course à 15h, là aussi, ça sera pas terminé au bout de 2h, si vous voyez ce que je veux dire. Merci à tous de votre fidélité au paddock RMC. On revient lundi pour le débrief de ce Grand Prix de Madrid. Très bon week-end F1. Ciao.
Le paddock RMC.